I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Salut, c'est Pauline Parmentier. Bienvenue dans Échange, le podcast du tennis.
La première fois que je l'ai vue, on devait avoir 12 ans. La fédération nous avait rassemblés à Roland-Garros pour tester les espoirs que nous étions. Contrairement à moi, cette femme a fait une grande carrière qui arrive peut-être à sa fin. Elle vient de gagner la Fed Cup, on va en parler bien sûr, mais pas que, il y a tellement plus à dire. Je suis ravi de la recevoir, j'ai hâte. Je m'appelle Antoine Beneteau, bienvenue dans Échange. Salut Pauline Parmentier, on se voit ou on se tutoie?
On se tutoie quand même, je te rappelle qu'à 12 ans j'étais amoureuse de toi, Montonio.
Ah, je savais pas que t'allais le révéler, c'est gentil, merci. Je suis vraiment très content de faire cet épisode d'échange avec toi pour plusieurs raisons. La première, elle est un peu évidente, on va pas cacher que nous sommes amis. Mais j'ai aussi envie de revenir avec toi sur ce titre de Fed Cup. Et puis surtout, je suis content parce que tu es une femme et que je n'en ai pas eu assez dans cette première saison, je trouve. D'ailleurs, je promets de remédier à ça dans la deuxième saison. Et donc, j'avais très envie, après être revenu avec toi sur votre victoire en Fed Cup, qu'on parle un petit peu des femmes ensemble, si tu le veux bien.
Bien sûr.
Déjà, nous sommes 2 mois après votre victoire en Fed Cup. Est-ce que tu es toujours sur ton nuage ou ça redescend un petit peu?
Ça redescend un petit peu, mais on a eu vraiment envie de rester longtemps sur ce nuage. Et puis, la chance qu'on a eue, c'est qu'il n'y avait pas de tournoi derrière la Fed Cup. Donc, on a vraiment pu profiter de ce moment-là. On est rentré, on a pu faire la presse, on a pu aller à l'Élysée. Ouais. Enfin, on a vécu des moments assez forts. Et c'est vrai que parfois, on rentre des Fed Cup et le lendemain, le lundi matin, tout le monde part un peu à droite à gauche, repart sur les tournois individuels. Et c'est assez, le choc est assez violent à chaque fois. Et là, on a pu passer encore du temps ensemble à Paris. Et c'est vrai que c'était dur de couper après tout ce qu'on a, de couper le cordon avec tout le monde, après tout ce qu'on a partagé à l'autre bout du monde. Donc, après, forcément, on revient un peu à la réalité. On reprend un peu tous le rythme d'entraînement. Moi, j'ai fait les matchs par équipe. Je suis partie un peu en vacances. Là, on se réentraîne. Donc, on revient vite à la réalité. Mais quand j'arrive chez moi et que je vois ma coupe, ça me la laisse un petit peu sur mon nuage.
Est-ce que c'est dur de passer à autre chose? C'est dur de reprendre, par exemple, la saison, là, la préparation hivernale?
Ouais, c'est un peu dur parce que pour moi, je suis sur une fin de carrière. Donc, forcément, les objectifs, celui-là, c'était un des objectifs très forts pour moi tout au long de ma carrière. À partir du moment où il est atteint, c'est sûr que derrière, faut digérer le truc et essayer de repartir sur une nouvelle aventure, quoi. Je trouve que j'ai plutôt bien fait. J'ai pris le temps. Je suis partie un peu en vacances. J'ai profité de faire d'autres choses. J'ai eu la chance d'aller aux Étoiles du Sport, rencontrer d'autres sportifs aussi, échanger sur plein de choses. Et c'était hyper intéressant. Et voilà, j'ai pris le temps tout en faisant un peu de sport pour m'entretenir un peu, de digérer tout ça, de surfer un peu sur sur la victoire de la Fed Cup. Et puis là, je me réentraîne maintenant pour la nouvelle saison.
J'ai justement vu le film là, de la Fed Cup qui s'appelle L'Esprit d'équipe, qui retrace votre parcours dans la compétition. C'est toi qui maintiens en vie l'équipe de France contre la Roumanie en demi-finale. Est-ce que c'est le plus grand moment de ta carrière?
Ouais, clairement.
Ouais, vraiment?
Bah ouais, c'était fantastique. J'ai du mal à décrire à chaque fois le mot exact qui peut caractériser ça, mais c'était vraiment... Je m'attendais pas forcément à jouer. En fait, il s'est passé vraiment plein de choses parce que je me sentais vraiment bien sur la semaine, mais j'avais pas gagné beaucoup de matchs. Sur le samedi, on entend tout le temps, samedi c'était l'équipe, mais préparez-vous pour dimanche et tout. Et souvent, tu dis bon, ok, mais bon. Et là, en fait, depuis le début de l'année, c'est réel, quoi. On l'a vu à Liège, ça a bougé. Après, ça a bougé aussi sur Rouen. L'équipe du dimanche, elle a changé. Et en fait, ce qui était hyper fort, ça a commencé dès le samedi soir parce que le samedi soir, je pense que Julien, il hésitait entre Alizé et moi pour le match du dimanche. Et en fait, il discute avec Alizée et Alizée lui dit « Je pense que ce serait bien que Pauline soit là dans la discussion.
Okay. »
Et c'est la première fois que ça arrive, parce que souvent, le capitaine vient nous voir, ouais. Il nous dit bah, « Demain, ça va être telle et telle personne pour telle et telle raison. » Et on échange en one-to-one. Mais là, on a discuté tous les trois. Et en fait, c'était hyper fort, parce qu'on essayait de trouver le meilleur choix pour le dimanche, mais ensemble. Et en fait, quand Alizée m'a dit « Mais c'est à toi d'y aller, je joue hyper bien, et si tu joues un tel, c'est toi qui es en meilleure position pour la battre et tout. » Mais moi, ça m'a donné une espèce de force énorme, même si le samedi soir, quand je me suis endormie, j'étais ouais. forcément stressée parce que j'allais rentrer pour un match, quoi qu'il arrive, qui allait compter. Après, je savais que j'allais avoir Julien avec moi sur la chaise. Et bah, Julien, j'ai une relation depuis longtemps avec lui qui est forte. C'est quelqu'un qui compte énormément pour moi. Donc, je me sentais aussi rassurée de l'avoir avec moi sur le banc. Et puis, bah, de ramener un point décisif sur une rencontre comme ça à la maison... Franchement, c'était assez irréel. Surtout que j'étais dans un petit moment où je me disais, est-ce que je continue? Est-ce ouais. que je repars sur une saison ou pas? Bon, bah là, on avait gagné la rencontre, c'était réglé. J'avais rendez-vous en novembre avec la finale de Fed Cup et j'avais mon objectif.
T'avais plus le choix.
J'avais plus le choix.
C'est un peu paradoxal de vivre le plus grand moment de sa carrière dans un sport individuel, en équipe. Comment on gère ça, ce décalage entre ces moments très forts d'équipe et puis la vie du circuit?
C'est pas simple. C'est pas simple parce qu'on peut être amené à se sentir un peu seul parfois sur le circuit, même si moi j'ai eu la chance d'avoir toujours des entraîneurs avec qui je m'entendais bien. Et du coup, j'ai toujours essayé de m'entourer. Là, je suis avec Olivier Patience depuis 4 ans. Et c'est vrai que je pense que sans lui aujourd'hui, j'aurais sûrement arrêté déjà quelques saisons avant. Parce que le fait de partir en tournoi avec quelqu'un qu'on apprécie, ça fait du bien, même si les gens se disent c'est fabuleux, tu voyages, tu visites du pays, tu vas en Australie. Ouais, c'est génial, c'est vrai que c'est fantastique, mais c'est chaque semaine, on repart, on bouge tout le temps, les valises, les hôtels, etc. Et cumuler à chaque fois d'année en année, c'est pas toujours évident. Donc, moi, c'est vraiment un élément important pour moi d'avoir quelqu'un avec qui je me sens bien sur le circuit. Et là, on a quand même la chance, donc même si c'est un sport individuel, on a la chance de pouvoir vivre ce truc en équipe avec la Fed Cup. Moi, par rapport à ma personnalité, c'est quelque chose qui compte énormément pour moi, parce que de pouvoir partager ça, de pouvoir donner, de pouvoir recevoir des filles, on a un staff qui est incroyable, c'est vraiment top, ouais.
Et tu parlais de ce sentiment de solitude, est-ce que tu peux m'en dire plus? Parce que moi, à mon niveau, je sais que c'est quelque chose, alors même si en plus j'aime ça, la solitude, mais c'est quelque chose qui pouvait me peser.
Oui, c'est pas évident, parce que On part en tournoi, on est confronté à la défaite chaque semaine. Il y a une personne qui va remporter la coupe à chaque tournoi et c'est rare d'aller au bout. Donc, à part Roger ou Rafa qui connaissent ça très bien, le reste les autres joueurs, on est souvent confronté à la défaite chaque semaine. Donc, tu as tout le temps une remise en question déjà qui est un peu dure à gérer. Et souvent, ben, tu sors du match, t'as ce moment où t'es seul dans les vestiaires, le moment où tu rentres à l'hôtel, t'es seul dans ta chambre.
Ouais.
Et t'es à l'autre bout du monde. Alors, le téléphone, c'est bien, tu te fais rassurer, tu reçois 2-3 messages, t'as tes proches, etc. Ça fait du bien. Mais c'est toi qui te regardes dans le miroir et qui te dis, aujourd'hui, j'ai raté ça, j'ai merdé sur ça. Ou bah, non, j'ai rien à me reprocher. Allez, elle a été plus forte que moi, on repart. Et c'est dur de trouver cette lucidité, ce recul, parce que la défaite, je pense peut-être un peu plus chez les filles, ça touche énormément, quoi. On voit sur le tissu il y en a beaucoup qui sortent en pleurs, qui pleurent après les matchs, et moi, j'ai pleuré beaucoup sur des défaites. Donc, c'est au rôle de l'entraîneur de trouver les mots pour repartir, de bien analyser le pourquoi du comment, et puis de repartir, quoi.
Pour finir là-dessus, est-ce que tu irais jusqu'à dire que parfois, il y a des mini-dépressions?
Bon, on voit beaucoup, je vous lis pas mal d'articles sur des joueurs ou joueuses qui disent à un moment donné, je suis tombée, j'ai vu encore un truc de Monica Puig là, qui dit après ma médaille olympique, ça a été 3 ans de difficile à gérer par rapport à ce qui s'était passé. Mais oui, ça, je pense qu'il y a plein de petites dépressions, mais après, il ne faut pas oublier que c'est quand même notre passion, puis c'est le sport... Ça nous amène des émotions hyper fortes aussi. Donc, il y a des moments très durs, mais quand ça se passe bien, c'est fabuleux. Et c'est vrai que c'est ça qui est parfois difficile, c'est qu'il y a une espèce d'ascenseur émotionnel qui est assez ouf, quoi. Et même s'il y a des petites dépressions, qu'il y a des moments durs, ça reste quelque chose de fantastique. Moi, mon voyage tennis, il va bientôt s'arrêter.
Ouais.
Quand je regarde tout ce qui s'est passé,
c'est beau, l'expression voyage tennis, j'aime bien.
Parfois, on me dit, mais t'as pas des regrets, t'aurais pas fait quelque chose différemment et tout, mais en fait, moi, le côté sensible que je peux avoir, ça m'a permis de vivre tout ça à 1000%. Alors oui, avec des moments difficiles, mais les moments forts, ils ont été encore plus forts.
D'accord. Pour revenir au film, à la fin, on vous voit discuter avec Alizé Cornet et Caroline Garcia, et tu dis quelque chose de beau. Tu dis c'est bon de se réaimer. Comment tu as vécu de cette période un peu bizarre?
C'était vraiment compliqué. En fait, il y a eu cette fin de cycle avec Amélie où elle décide d'arrêter parce qu'elle est enceinte. Donc, pour la plus belle des raisons, elle ne peut pas continuer l'année suivante. Donc, on vient de perdre la finale à Strasbourg. On débriefe pas le dimanche soir parce que tout le monde a un peu la tête dans le seau, c'est difficile. On se dit, rendez-vous demain matin, on se fait un bon petit déj tous ensemble et tout, sans vraiment savoir ce qui va se passer. Et là, ça commence par Amé qui nous dit, je suis enceinte, je ne pourrai pas être capitaine l'année prochaine, etc., etc. Déjà, coup dur.
Ouais, double coup dur après la défaite.
Après la défaite. Et là, ensuite, t'as Caro qui nous dit, je vais penser à ma carrière perso, je ne serai pas avec vous l'année prochaine. Tu vois, on s'est pris une espèce de rafale. Il y a pas mal de membres du staff qui disent moi j'étais dans l'aventure parce que Amé était là, je sais pas si je vais continuer. Et là, t'as l'impression que tout le monde quitte le navire. Non seulement on vient de perdre la finale, et tu te dis mais qui va rester en fait?
Tu penses que ça aurait été différent s'il y avait eu la victoire?
Non, je pense que ça aurait rien changé. Je pense que la décision, pour Amé, ça aurait rien changé.
Oui, bien sûr.
Et je pense que la décision de Caro était prise bien avant cette finale et que ça aurait rien changé. Mais en fait, tu vis une aventure hyper forte, tu vas jusqu'à la finale, ok, on perd, c'est dur et tout. Mais tu crois en cette équipe, tu te dis, mais on est potes, on est ensemble, on va pas se lâcher, quoi. On va repartir l'année prochaine et on va aller chercher ce trophée. Et puis finalement, tout le monde quitte le truc et tu étais là, non.
Est-ce qu'à ce moment-là, tu te dis, ce que je croyais avoir vécu, finalement, c'était pas vrai?
Moi, je me suis dit, est-ce que c'était vraiment réel? Est-ce que c'était vraiment sincère? Est-ce que c'était pas un peu fake? Oui, je me suis posé la question. Ouais. Et je pense qu'en fait, c'est pour ça qu'il y a eu des réactions après qui ont été. Qui devaient pas avoir lieu d'être. Parce qu'en fait, je pense qu'on ne s'est pas vraiment expliqué sur le moment des raisons de Caro, de nous, enfin de moi personnellement, je ne comprenais pas certains choix. Je ne lui ai pas exprimé, donc du coup, on n'a pas été au bout de ça. Du coup, par presse interposée, on lisait des réactions, des trucs, et il y a eu une mauvaise. Il y a un mauvais truc qui s'est mis en place, et après, il y a eu des déclarations, c'est parti un peu en live. Et finalement, on s'est rendu compte qu'on avait fait énormément de mal à Caro, alors que pour nous, au début, c'était elle qui nous avait fait du mal. Tu vois, tout était un peu inversé, donc c'était particulier. Et ça a pris du temps, parce que je pense qu'elle avait besoin de digérer, elle avait vraiment besoin de faire son truc perso.
Oui.
Donc ça a pris du temps. Nous, on a essayé avec Christina, il y avait Amandine dans l'équipe. Alizé, elle a eu son truc de no-show, donc elle n'était plus en Fed Cup. Tu vois, il y a eu une accumulation de mauvaises blagues qui sont arrivées, et on s'est dit... On a essayé de tenir la baraque pour l'équipe, de laisser...
Chose que vous avez faite.
Ouais, qu'on a réussi à faire, mais c'est vrai que c'était... Du coup, tu vois, des fois, on sentait un sentiment d'injustice, on ne comprenait pas, et voilà, c'est pour ça qu'il y a eu des réactions un peu inappropriées. Après, ce qui est bien, c'est que même si ça a pris du temps, on a été capable de se dire les choses.
Ouais.
C'était vraiment l'objectif de Julien quand il a pris le capitanat de la Fed Cup.
Ça n'a pas dû être facile, d'ailleurs, de se dire
pour
les
lui.
Choses. Non,
pour nous.
Mais non, je parle pour
je
vous.
Je pense que pour tout le monde, c'était compliqué. Le départ de cette aventure en début d'année, si on nous avait dit à la fin de l'année, vous allez être avec la coupe, tout le monde aurait rigolé, quoi. Parce qu'on partait vraiment de très loin. Et c'était pas simple, parce qu'à un moment donné, tu te dis, pourquoi c'est à moi de faire l'effort? Pourquoi c'est pas à elle de faire l'effort?
Est-ce que je dois faire semblant?
Ouais. Et finalement, tu sais pourquoi t'es là, tu sais l'objectif qu'on a en commun, c'est de ramener cette coupe de Fed Cup. Le côté individuel, on partira peut-être pas tout en vacances ensemble, mais est-ce qu'on a envie de gagner ensemble? Oui, on a envie de gagner ensemble. Ok, il faut faire ci, il faut faire ça, et on essaie de le faire. Et c'est ce qu'on a réussi à faire. Mais je pense que vraiment, le moment qu'on a eu quand on s'est tous retrouvés, il y avait vraiment une mise à niveau à faire, et ça, c'était vraiment important.
Je t'ai vu en Fed Cup, sur le terrain. Je t'ai vu t'encourager, serrer le poing, t'exprimer, en quelque sorte. Comme jamais, parce que j'étais sur le circuit avec Julien et tu étais en train de jouer aussi. Donc, j'ai vu certains de tes matchs. Mais comme jamais, je t'ai vu le faire sur le circuit WTA. Est-ce que c'est différent quand tu joues pour l'équipe de France? Est-ce que c'est quelque chose qui a représenté peut-être une marge de progression?
Je pense que le fait d'être en équipe, le fait d'avoir quelqu'un avec moi sur la chaise et de voir tout le monde sur le banc, ça me donne une force que j'arrive pas forcément à trouver quand je suis seule. Ce truc-là, je pense que je l'ai trouvé avec Yannick quand il a pris le capitanat. C'est un truc qui m'a, qui m'a amené parce que à un moment on est parti sur la demi à Aix et je gagnais pas un match et je lui dis mais tu t'es sûr que tu veux me sélectionner parce que là franchement je sers à rien quoi. Et je lui ai envoyé ce message, il m'a pas répondu. Mais au moment où je suis arrivée au stage, j'ai senti que genre il m'avait pris sous ce bras et qu'il allait pas me lâcher quoi. Et il était vachement sur ça, sur le kiff, c'est enfin tout ce que t'as amené le tennis, il faut que tu kiffes, faut que tu redonnes, faut que tu profites et tout. Et en fait sur ces matchs-là, même si je les ai perdus contre Keys et contre Stephens, je sais pas, j'ai ressenti un truc un peu de fou et que j'ai ressenti de nouveau à Rouen avec Julien. Et Et c'est vrai que c'est là où je me sens mieux, où je joue le mieux, mais après, c'est pas toujours évident pour moi, qui suis un petit peu réservée parfois ou timide sur certains moments, même si on n'a pas l'impression, d'extérioriser autant, quoi.
Donc, tu expliques ça par de la timidité?
Oui, et puis manque de confiance en moi.
Ouais.
On peut le dire.
Quand tu rentres dans le vestiaire après ta victoire face à la Roumanie, tu vas voir Alizé Cornet tout de suite et tu lui dis « viens là, toi ».
Ouais.
C'est en rapport à cette discussion.
Ouais, c'est en rapport à cette discussion parce que franchement, c'était assez marrant parce qu'on est sortis de ce truc-là et tous les trois, on avait les larmes aux yeux. On était là, mais même Bennett, il était. Il disait, mais c'est fou ce qu'on vient de. Le moment qu'on vient de vivre, c'est. Mais je pense que c'est pour ça qu'on a gagné à un moment donné cette rencontre de demi-finale. C'est parce qu'on a réussi à se dire les choses, à se dire, ben. Alizé, si elle s'est dit, ben là, je le sens pas, ou il y a des moments où il faut le dire, ou. Je pense que c'est mieux que ce soit toi, etc. Et en fait, le fait d'avoir réussi à faire ça... Et c'est vrai que quand j'ai gagné, j'ai forcément eu une pensée pour elle parce qu'au départ, c'est elle qui devait être sur le terrain. Et du coup, j'avais envie de lui offrir cette victoire parce qu'elle m'avait fait confiance. Elle m'avait dit, vas-y, c'est toi qui mérites d'y aller, c'est ton moment. Et le fait de le vivre et de le réussir, j'avais qu'une envie, c'était de la prendre dans mes bras et de lui dire, mais merci ma poule de m'avoir offert ça. Et je t'offre le fait de revenir à 2-2. Donc, on a la même sélection, on est rentrés en 2008 toutes les deux en équipe. On a un lien par rapport à l'équipe de France qui est assez fort. Et donc, c'était un beau clin d'œil. Quoi.
J'avance. Hein. Le dimanche de la finale, avant le match de Kristina Blanenović, il y a les hymnes et vous décidez de vous tourner face à la tribune des supporters français. J'ai trouvé ça très fort. Comment ça s'est décidé?
En fait, il y a eu tout un truc parce que on a eu nos supporters qui sont venus donc à l'autre bout du monde quand même. Ils ont fait le voyage, c'était génial. On était hyper contents de les avoir. Et je crois qu'il y avait 200 ou 250 supporters français. Et donc souvent ils viennent avec des instruments, trompettes, machin, pour faire du bruit. Et en fait, le règlement du stade, c'était interdit.
Ok.
Ils n'avaient pas le droit de rentrer dans le stade avec leur matériel quoi. Et nous, ça nous a rendu dingue. On a dit, mais attendez, ils ont fait 24 heures de voyage pour nous voir. Vous avez 13 000 personnes, on a 200 supporters. Laissez-leur le tambour ou la trompette, quoi. Et donc, en fait, le samedi soir, on a dit qu'on ne lâcherait pas là-dessus et qu'il fallait qu'ils puissent, qu'ils rentrent avec leur truc. Et ça a été refusé.
OK.
Et donc, du coup, le président, les élus, etc., ont quitté la tribune présidentielle et se sont mis avec les proches et les... Parce que je ne sais pas si vous avez vu, mais le dimanche, ils étaient de l'autre côté. Et donc, en fait, on s'est sentis hyper soutenus dans ce truc-là. Et au moment où il y a eu la Marseillaise, on s'est retrouvés... Je ne sais pas, la présentation, c'était un peu bizarre. On s'est retrouvés devant notre banc, face à des gens que, finalement, des supporters australiens, on n'avait pas de lien, quoi. Et on s'est dit, mais les gens... pour qui on va jouer, qui sont avec nous, qui sont en Australie, à l'autre bout du monde, ils sont derrière nous. Et on se dit, bah allez, on se retourne.
Donc sur le terrain.
Sur le terrain, ouais.
Ah, c'est génial.
Ouais, c'est au moment de... C'est genre 30 secondes avant l'hymne. Je ne sais plus qui a dit, mais pourquoi on ne se retourne pas? Et là, Bennett a dit, non, non, ça ne se fait pas. Et on a dit, quoi, ça ne se fait pas? On se retourne. Et là, c'était de chanter ça face à notre... chanter l'hymne face à notre staff, nos familles et nos supporters au-dessus.
Ouais, c'est magnifique.
Moi, je ne sais pas si on voit sur les images, mais à la fin, je n'arrive plus à chanter, je pleure.
Une dernière question sur la Fed Cup. Tu es choisi pour jouer, tu rentres sur le court à 2-1. Comment tu t'es senti?
Ça a été un match un peu frustrant pour moi parce que j'avais ce souvenir de demi-finale où j'avais réussi un peu à sortir de moi. J'ai envie de dire, j'avais montré vraiment une très très belle image de ce que je pouvais produire.
Ouais.
Et j'avais envie de le refaire. Et quand Christina a gagné ce match-là, je me suis dit... J'avais l'impression que c'était un signe. Je me suis dit, mais... C'est moi qui vais amener le...
Qui va gagner, ouais.
J'aime tellement cette équipe. Enfin, tout le monde, hein, on aime
ouais,
tout.
Oui, bien sûr.
J'aime tellement cette équipe. J'ai tellement tout donné pour cette équipe. Et c'est avec Julien et tout. Tu vois, j'ai l'impression que l'histoire était écrite. Mais bon, c'était trop beau. Mais donc, j'étais un peu tendue tout le ouais. match. Elle a mieux joué que la veille. Elle m'a bousculée.
Ça, c'est vrai.
Donc, voilà, c'était pas simple. Et j'étais très, très déçue de ne pas ramener ce point. Mais en même temps, derrière, j'étais aussi hyper fière de voir les filles, Christina et Caro, avec, comme on disait tout à l'heure, le passé qu'il y a pu avoir, de les voir ramener ce point ouais. pour la finale. Enfin, comme si c'était une évidence aussi pour elles de se dire, bah, nous. En fait, je pense que si moi j'avais ramené le point, c'était genre, c'était l'histoire. Et si elles, les deux, dans les deux cas, en fait, c'était une super histoire. Et c'est vrai que le moment où tu rentres dans les vestiaires, t'as perdu le point, c'est pas simple. Mais tu te remobilises tout de suite pour les filles et t'essaies ouais. de repartir, quoi. Et elles ont été grandes.
Tu as connu beaucoup de capitaines dans ta carrière.
Ouais.
Mais il était comment, mon frère?
Il était fantastique. Il était fantastique parce que. Il a commencé, c'était vraiment pas simple. Je sais pas s'il en parlera, mais c'était. Je pense qu'il s'est dit, mais dans quoi je me suis foutu, quoi.
Ouais.
C'était. Nous, ce qu'on a vraiment apprécié chez lui, c'est qu'il s'est vraiment manifesté pour le capitaine Fed Cup. Il s'est intéressé à nous, à notre entourage, à notre staff. On a vraiment senti qu'il était intéressé par le tennis féminin, ce qui n'est pas forcément courant.
On va en parler après.
Ouais. Donc nous, ça nous a beaucoup touchés par rapport à ça. Et puis après, le boulot qu'il a fait pour réunir toute l'équipe, bah, c'était top.
Mm-hmm.
Et à chaque fois, depuis le début, dans ses discours, tout le monde avait sa place, tout le monde amenait quelque chose et tout le monde pouvait jouer à n'importe quel moment. En fait, on s'est tous sentis valorisés dans l'équipe et je pense que ça a fait énormément de bien. Et bah, moi, je l'adore, donc je peux que dire qu'il était fantastique. Et en plus, on a gagné, donc c'est un grand capitaine.
J'ai discuté avec un autre joueur de tennis, un mec, un Américain, Noah Rubin, qui était 120e mondial au mieux, qui s'est blessé. Je ne sais pas si tu vois qui c'est. Il a créé un compte Instagram qui s'appelle Behind the Racket, qui est très intéressant, où il donne la parole aux joueuses et aux joueurs. Là, il m'a dit qu'il venait d'interviewer une joueuse. Il ne m'a pas dit son nom parce qu'il n'a pas encore sorti l'interview. Et elle lui a confié que c'était difficile de bien s'entendre sur le circuit féminin avec les autres joueuses. Est-ce que toi aussi, tu ressens ça?
Moi, je le ressens un petit peu parce que... Bah déjà, nous, Français, on a un peu déjà la... On ne parle pas tous très bien ouais. anglais, même si maintenant, ça va mieux. Mais au départ, quand tu arrives sur le circuit, c'est pas simple d'aller vers les autres, de dire « Allez, je me lance, je parle anglais. » On est vachement entre nous. Et c'est vrai que ça reste un sport individuel. Enfin, là, j'ai encore vécu cette semaine avec Caro. On vient de vivre un des plus beaux moments de notre carrière. Et deux mois après, on s'affronte au premier tour d'un tournoi. C'est pas simple à gérer, quoi. Donc, t'es toujours dans le truc, bah, c'est ma pote, mais en même temps, on est adversaire. Ouais, c'est pas simple de vraiment bien s'entendre. T'en as qui font des petits coups de Trafalgar ouais. de temps en temps. Donc, ouais, c'est compliqué.
Ce que je veux dire, c'est que c'est comment dans un vestiaire de joueuses? Est-ce que ça discute? Est-ce qu'il y a une bonne ambiance? Parce que moi, je connais les vestiaires du côté homme.
Qui sont
il y a une
sympas.
Super bonne ambiance.
Ouais. Bah non, nous, c'est pas comme ça.
Non, mais voilà, c'est
non,
vachement intéressant.
Non, c'est pas comme ça, parce que bah, souvent... Genre, bah,
alors en que étant, les enjeux sont les mêmes.
Mais c'est les mêmes. C'est les mêmes. Et chez les nanas, t'as l'impression qu'il faut montrer un peu... Bah, typiquement, tu vas voir Federer ou Rafa. Moi, j'entends plein d'histoires quand Julien y racontait. Ils vont vers les autres, quoi. Ils discutent dans les vestiaires, ça rigole et tout. Nous, on va voir Sharapova. Hein, elle va pas nous regarder. Elle va pas nous dire bonjour. C'est comme si et en plus, quand tu la joues, c'est comme si le match avait déjà commencé dans les vestiaires.
Mm-hmm.
Tu vois, cette espèce de jeu qu'il peut y avoir hors terrain, quoi. Et mais on le voit vachement. Enfin, je veux dire, pour reprendre l'exemple de Sharap, c'est ce qu'elle dégage. Elle aime montrer ce rôle-là. Et dans les vestiaires, c'est. T'as Alep qui est très sympa, Wozniacki qui est hyper sympa. T'en as deux, trois quand même qui sont hyper cool et qui disent bonjour, avec qui tu peux discuter et qui sont sympas. Mais je pense que c'est pas la même ambiance que dans les vestiaires, mec.
Est-ce que c'est difficile d'être une femme dans le tennis? Je parle du côté... voilà, les hommes sont bien mis en avant. Vous, les femmes, hors les tournois du Grand Chelem, où là, il y a parité dans le prize money et tout ça, ben voilà, on a déjà discuté, où tu me disais... Ah ouais, c'est compliqué de faire une programmation de tournoi parce que parfois il y a des semaines, il n'y a pas de tournoi. Est-ce qu'il y a une difficulté?
Un petit peu sur la programmation, c'est pas facile. Il y a vraiment des périodes dans l'année où si t'es pas dans les 100, tu peux pas jouer. Quand il y a en mars Indian West Miami, les filles qui sont 150, ce qui est bien dans le tennis, enfin, dans un sport, être 150e joueuse mondiale de son sport, c'est quand même beau déjà.
Bien sûr.
Et en mars, il y a très peu de tournois, donc tu peux ne pas jouer pendant un mois. C'est quand même pas forcément normal. Les tournois juste avant les grands chelems, c'est compliqué aussi de jouer parce que c'est très fort.
Ouais.
Donc parfois, ouais, ça manque un peu de tournois, même si on voit que la WTA fait des efforts, qu'il y a des tournois ITF qui se créent aussi. On sait que c'est difficile
bien
économiquement
sûr.
Maintenant de tenir un tournoi. Après, oui, nous, on a la parité sur les grands chelems et c'est fabuleux. Je sais que ça fait débat assez souvent. D'ailleurs, on a des discussions un peu chaudes parfois au resto ou quoi avec les joueurs. C'est assez marrant. Mais après, ça évolue même médiatiquement. Je trouve que le sport féminin, il est un petit peu plus mis en avant qu'avant. Mais c'est vrai que je parle dans le tennis aujourd'hui. Peut-être qu'on souffre un peu de ne pas avoir vraiment une top qui se dégage. Sauf s'il y a Serena qui se met à jouer, mais... Du coup, les gens ont du mal à s'identifier à quelqu'un. Et quand on parle du tennis féminin, je sais pas, tu demandes à quelqu'un qui suit le tennis de loin, qui a gagné Roland cette année ou qui a gagné Wim ou quoi, ils vont peut-être pas savoir répondre. Alors que chez les mecs, c'est vrai
bien
que t'as
Federer,
Nadal qui survole un peu le truc. Mais on se bat, on essaye de sortir un peu, de montrer le bout de notre nez. Et je pense que ça prend forme, mais ça prend du temps, ça part de loin, quoi.
J'ai l'impression qu'on est un petit peu sorti de la starification des femmes. En fait, je parle des femmes et qu'on passe plus dans le côté, ok, c'est les joueuses de tennis qui sont mises en avant. En gros, on est sorti de la blonde stéréotypée qu'on a pu avoir. Alors, ça a commencé avec Anna Kournikova. En fait, je trouve que la WTA mettait vachement ça en avant à un moment. Et là, j'ai l'impression qu'on en sort un petit peu.
Ouais, je suis assez d'accord. C'est vrai que... on parle, par exemple, Kournikova, on parle tout le temps d'elle, mais elle a jamais été numéro un. Par
Exactement.
Exemple, elle a pas gagné de grand chelem. Donc, c'est vrai que il mettait vachement en avant le côté plus physique.
Exactement, ouais. C'est ça que je veux dire.
Ouais, le côté physique, présentation, en gros, de ce que pouvait représenter la femme, quoi. Et ça, on en est un peu sorti, ouais.
Et est-ce que vous en avez souffert?
Ben non, parce que moi, je suis grande. Blonde. Non, mais on en a souffert. Moi, je regardais pas forcément ça, donc je me suis pas sentie touchée par rapport à ça. Faudrait plus demander aux filles qui ont été vraiment dans
D'accord.
l'élite et qui le top 10, par
oui,
exemple,
oui.
et qui a peut-être souffert de ça, mais moi, je l'ai pas forcément ressenti.
Surtout qu'en plus, aujourd'hui, je trouve que on voit, notamment en termes de jeu, avec des joueuses comme Barty, Andreescu, où ça joue très bien, quoi. Et il se passe des choses vachement intéressantes, même en termes d'évolution de jeu. Je trouve que c'est un bon moment pour le tennis féminin.
Ouais.
Parce qu'il y a des nouveaux visages qui arrivent.
Il y a des nouvelles têtes avec des jeux un peu différents. Parce que quand on est sorti de l'époque de Clijsters, de Hénin, d'Amélie, où il y avait un peu de variation dans le jeu et tout, on est rentré dans des jeux vraiment boum-boum, quoi.
Exactement.
Tu dis, ouais, ok, ça frappe fort, mais il se passe quoi d'autre, quoi? Et là, on revient avec Barty qui slice en revers, Andreescu qui a beaucoup travaillé sa main, qui joue hyper bien, qui varie beaucoup. C'est vrai que c'est une nouvelle ère qui est assez sympa, ouais.
Ma prochaine question, et t'as commencé à l'évoquer, c'est est-ce que c'est difficile d'être une femme et une sportive de haut niveau? Est-ce que c'est difficile pour toi de se situer en tant que femme quand on est une athlète de haut niveau?
Il y a des moments difficiles. Déjà, en fait, pour une femme, d'aller... Le tennis, on combat.
Ouais.
On doit battre son adversaire. Et pour une femme, d'aller se battre, c'est pas dans la nature de la femme, quoi. Donc déjà, t'es confrontée à un espèce de truc où on te demande d'être pas violente, mais tu sais, tu dois être guerrière.
Oui.
C'est pas forcément naturel au début.
Okay.
Ça, c'est un truc pour moi qui a été un peu difficile. Et je pense que c'est pour ça que tu disais pourquoi en équipe t'arrives à. On te voit t'encourager, on te voit sauter, parce que je me sens portée par quelqu'un. Quand je suis seule, c'est un peu plus difficile. Donc, ça, par rapport à ça, c'est pas facile. Après, ça, c'est plus par rapport à ma personnalité où tu te sens parfois jugée. Les critiques sont des fois difficiles à encaisser. Tout ça, c'est. Mais je pense que ça, c'est plus le côté humain de. Je suis pas forcément liée à la femme, je pense.
Ok.
Mais après, c'est beau aussi d'être une femme et de pouvoir faire ton...
Complètement.
Ouais, je trouve ça...
Complètement.
En fait, moi, c'est juste le côté de se dire il faut aller au combat sur le terrain qui a été un peu dur parfois à gérer en tant que fille au début et femme après. Mais Après, quand tu vois, quand on est allé à l'Élysée et qu'on a été reçu par Monsieur le Président, oui, et Emmanuel Macron, et que à la fin il nous a dit, mais en gros maintenant vous avez une mission, les filles, quoi. Vous avez réussi vous avez gagné la FEDCA, vous avez un exemple à montrer, quoi. Mm-hmm. Et là tu te dis, bah en tant que femme, c'est stylé.
Bah,
c'est la classe. T'as Monsieur le Président qui te dit ça, et t'es fière, quoi.
Mais tu vois, tu dis en tant que femme, alors que ça devrait être en tant
qu'athlète. Voilà. Ouais, bien sûr. Bah, c'est un peu les deux. Ouais.
Tu penses jouer encore combien de temps?
Tu veux le scoop?
Non, mais
je pense jouer encore cette saison.
Ouais.
Et voilà.
Ah ouais, tu penses.
Ouais.
Pour l'instant, dans ta tête, c'est ta dernière saison.
Ouais.
Ok. Et est-ce que tu te projettes sur ton après carrière?
Ouais, j'essaie de bosser un peu dessus déjà, de rencontrer un peu les gens qui pourraient m'aider pour la suite, de voir vers quoi je pourrais m'orienter.
Tu as des envies déjà?
Ouais, j'ai quelques envies. Ouais, en discutant un peu, j'ai pas mal de le fait d'avoir joué longtemps, la génération mm-hmm. d'avant qui sont mes potes, ils sont passés par là, donc je discute pas mal avec eux, et c'est vrai que ça m'aide beaucoup de pouvoir aller faire un déj avec des gens qui ont traversé ça et qui peuvent m'aider là-dessus. Mais ouais, j'ai quelques envies. J'aimerais bien bosser un peu enfin, je sais pas si on peut le dire, mais
ouais, tu fais ce que tu veux.
Non, mais commenter un peu, bosser un peu,
ouais,
en télé.
Bah, t'as le droit.
J'adorerais m'occuper d'un tournoi.
Ouais.
J'adorerais bosser pour une marque.
Ouais.
Voilà, il y a des choses que j'ai envie de faire. Je vais me passer mon DE, mon diplôme d'État,
ouais,
pour voir, j'aimerais accompagner quelques jeunes sur des compètes.
T'as une envie d'accompagner
des... d'entraîner et de repartir tout de suite sur des déplacements, parce que ça devient dur pour moi de le faire, donc je me vois pas tout de suite repartir pour d'autres. Mais oui, faire des Coupes d'Europe de jeunes,
ouais,
accompagner des jeunes sur quelques semaines, ouais, j'ai envie. En fait, le tennis, ça m'a tellement apporté que maintenant j'ai envie de redonner aussi à mon sport, parce que je trouve que ce que j'ai vécu pendant toutes ces années, c'est une chance, et j'ai pas envie de le garder pour moi, j'ai envie de partager tout ça avec d'autres personnes.
T'as envie d'écouter Emmanuel Macron et d'être un exemple. quel va être ton début de saison?
Alors, mon début de saison, je pars le 5 janvier en Australie pour jouer les qualifs d'Adélaïde ou de Hobart.
Ouais.
Donc, je pars un peu plus tard que les autres années, parce que j'ai envie de passer les fêtes en famille, de profiter aussi de mes proches, parce que ça fait longtemps que je ne l'ai pas fait. Et ensuite, j'ai eu la chance d'avoir la wildcard pour jouer l'Open d'Australie, parce que je suis sortie des 100, donc j'étais pas dans le tableau final, et la fédération m'a donné la wildcard pour Melbourne, donc c'est canon. Je suis hyper contente de pouvoir jouer un nouveau Grand Chelem. La semaine dernière, on me disait que c'était mon 47e tableau du Grand Chelem.
La classe, quand même.
Ouais, c'est cool. Mais ça vieillit, quand même. Et ensuite, je vais rentrer. Je crois que je vais sûrement jouer Budapest. Je vais jouer Lyon, le tournoi de Caro Garcia.
Ouais.
Et après, c'est d'aller sur la tournée américaine. Peut-être la Fed Cup, si ton frère me sélectionne. et puis ensuite, préparer la terre, jouer Roland. Et puis, on fera le point.
Génial. Donc, tu nous as dit que c'était ta dernière saison. On est pour finir dans
c'est
une période...
C'est la première fois que je le dis. Hein.
Donc, c'est vrai?
C'est, ouais.
Et c'est acté, c'est sûr?
Bah, ouais, c'est
sauf,
sûr.
Sauf grande surprise, c'est ta dernière saison.
Ouais.
Donc, j'ai le scoop.
T'as le scoop.
Voilà, j'adore. déjà, alors, justement, pour finir, on est dans une période de fêtes et de vœux. Quels sont tes souhaits et tes vœux pour ta dernière saison et ton année 2020?
Déjà, c'est de pouvoir faire ma saison pleine, parce que c'est vrai que quand t'arrives en fin de carrière, t'as peur un peu des blessures. Mm-hmm. Tu te dis, j'ai pas envie d'avoir le coup d'arrêt qui fait que ça va être la fin. J'ai envie de pouvoir décider de ma fin de carrière.
Ce qui est très dur à faire.
Ce qui est très dur, ouais. Mais je pense que c'est important de pouvoir aller au bout de son truc après toutes ces années. Donc ça, c'est vraiment ce qu'on peut me souhaiter. Après, il y a forcément, il va y avoir de nouveau la Fed Cup, il y aura un Roland, donc essayer d'être prête pour ces événements-là. Et même si c'est ma dernière saison, je serai au taquet sur tous
bien
les matchs
sûr.
Jusqu'au dernier moment, quoi. Jusqu'au dernier jour où je vais aller raccrocher mes raquettes, je serai au taquet jusqu'au bout, quoi. Donc, j'ai encore envie de vivre de bons moments sur le terrain. Et puis après, je vais prendre du temps pour moi. Et c'est ce qu'on peut me souhaiter, c'est d'être heureuse dans ma vie de femme.
Ouais.
et voilà, et trouver une belle reconversion pour la suite.
Eh ben, tout le meilleur pour cette nouvelle année qui va commencer, Pauline. Merci beaucoup, Pauline Parmentier.
Merci, Antoine.
Authentique, c'est le mot qui résume bien Pauline Parmentier. C'est le ton d'échange et c'est parfait pour lancer cette deuxième saison. Pauline a la gentillesse de vous offrir sa tenue de Roland-Garros. Pour la gagner, c'est simple, partagez, likez cet épisode et puis suivez les comptes Instagram de l'émission, de votre serviteur et puis de Pauline, bien sûr. 2020 commence bien. Merci à tous pour vos messages, vos suggestions. Si vous aimez, n'hésitez pas à mettre 5 étoiles sur Apple Podcast. Le succès de l'émission en dépend. Tout le meilleur en ce début d'année. Et bien sûr, prenez soin de vous.
Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com.